Pour une fois, nous tombons sur un texte du livre de Proverbes. J'étais si ravi, parce que ça fait si longtemps que je n'ai pas prêché sur ce livre. Et je vous avoue, quelle délice. Proverbes chapitre 23. Et nous lisons à partir du verset 15 jusqu'au verset 26. Proverbes chapitre 23, versets 15 à 26. Au nom de Jésus. Conseil d'un père à son fils. Mon fils, si ton cœur s'attache à la sagesse, j'en aurai une grande joie. Je serai profondément heureux si tu parles avec droiture. N'aie pas envie d'imiter les pécheurs, mais sois constamment soumis au Seigneur. Alors tu pourras te réjouir de l'avenir, ton espérance ne sera pas déçue. Toi, mon fils, écoute-moi, et tu deviendras un homme sensé. Tu iras droit ton chemin. Ne fréquente pas les gens qui s'enivrent de vin et s'empiffrent de viande, car les buveurs et les gloutons seront réduits à la misère. À force d'insolence, ils n'auront plus de haillons à se mettre. Écoute ton père, car tu lui dois la vie. Ne méprise pas ta mère lorsqu'elle a vieilli. Apprends à être véridique, réfléchi, discipliné, intelligent. Lorsque tu as acquis ces qualités, ne les gaspille pas. Le plus grand bonheur d'un père est d'avoir donné la vie à un homme honnête et avisé. Donne cette joie à ton père et à ta mère, ce bonheur à celle qui t'a mis au monde. Mon fils, fais-moi confiance. Prends plaisir à suivre mon exemple. Amen. J'imagine les jeunes vont dire « Ouf, quelle morale !» Un dimanche matin, on reçoit déjà des leçons de morale. Mais justement, un dimanche, une émission sur les chaînes de la RTBF, il y avait un culte télévisé, si je ne me trompe pas, où un prêtre avait juste lu un texte, qu'on vient de lire d'ailleurs, j'étais surpris, qui parlait de la soumission de la femme à son époux, ou un truc de ce genre, quoi. Et après l'émission, il y avait un politicien, je crois, le lendemain, s'est offusqué et a fait une déclaration. En entendant cette lecture, il a dit, il a osé critiquer le choix de lecture du prêtre. Or, ce qu'il a oublié, c'est que ce jour-là, monsieur le politicien ne comprend pas trop, puisque ce n'est pas son domaine, monsieur le curé n'a fait que reprendre les lectures du lectionnaire, c'est pas lui qui a choisi. Et là où je veux en venir, c'est que si ce texte a choqué ce politicien ce jour-là, combien même toute la série du Proverbe 23, si vous lisez tout le chapitre, où juste avant, il fait l'éloge de l'importance d'avoir une bonne discipline de vie. Par exemple, au verset 12 et 3 qui dit « Dispose ton cœur à l'instruction » et tes oreilles au discours de la connaissance. N'épargne pas la correction au jeune homme. Si tu le frappes du bâton, il ne mourra pas. Ouf ! Qui oserait prêcher sur ce texte aujourd'hui ? Avec les droits de l'enfant, on ne peut plus taper sur les enfants. Voilà, ils sont protégés. Ils reçoivent même des numéros verts à l'école. Si jamais papa vous tape, appelez la police. La norme de la sagesse des hommes aujourd'hui ne pourrait pas tolérer les propos de notre texte ce matin. Alors on pourrait dire, il faut arracher ça de la Bible. C'est dépassé par le temps. Mais toutefois, notre péricope d'aujourd'hui nous donne, moi je trouve, un vrai savoir-vivre. Une éthique qui pourrait être, je dirais bien, universelle dans notre cohabitation avec le monde. Nous les chrétiens, nous sommes des êtres appelés à cohabiter avec le monde, à cohabiter avec notre entourage, avec nos collègues de bureau, nos voisins, cohabiter. Vous imaginez ce mot? Et pour analyser ce texte, il faut prendre en compte tout le chapitre entier pour ne pas faire une interprétation hasardeuse. Alors, je vais vous aider, on ne va pas prendre le temps pour tout lire, mais pour résumer un peu ce qui est dit. Alors, il est dit, n'oublie pas qui tu es quand tu seras avec tes amis, jeunes gens. Quand tu seras adulte, quand tu auras réussi ta vie, quand tu seras quelqu'un de responsable dans la vie, n'oublie pas qui tu es quand tu seras avec tes collègues, quand tu seras avec ta famille. Et le livre du Proverbe ne nous empêche pas de se réjouir avec nos amis. En plus, ça tombe bien, un jour de fête qui va venir. Faites la fête. Mais n'oublie pas qui tu es quand tu feras la fête. N'oublie pas qui tu es quand tu seras avec tes amis. Il n'est pas question de s'isoler, ce n'est pas ça la vie chrétienne. Ou de vivre en retrait de la société, non, ce n'est pas du tout cela. Il ne nous interdit pas à faire la fête avec tout le monde, sans exception, au contraire. Un vrai chrétien doit être joyeux. Mais il dit clairement, par exemple, au verset 1 et à 2, une parole de sagesse qui dit « Si tu t'assieds à table avec un chef, fais bien attention à ce qui est devant toi. Mets un couteau sous ta gorge si tu as trop d'appétit. » Quelle belle parole, hein ? Vous voyez, il faut lire les textes bibliques parce qu'il y a des choses. Hein. Vous êtes tout le temps habitué à lire les évangiles de Jean, Matthieu, mais lisez quand même l'Ancien Testament, il y a des choses à découvrir. Là. Ici, il n'est pas question de régime alimentaire, parce que ce sera la fête, donc il faut essayer de se limiter. C'est pas tout cela. Ou de restrictions en nourriture. Mais c'est une façon de nous dire que souviens-toi quand tu seras parmi les grands de ce monde, et tu en feras partie, je suis sûr, ne te laisse pas corrompre. Et n'entre pas dans l'engrenage du monde tout en étant ami avec eux. Voilà la sagesse. Tu ne pourras pas éviter de côtoyer les grands de ce monde. Au contraire, l'Éternel va même te mettre dans ce cercle, comme Daniel, Shadrach, Meshach, Abednego, des jeunes gens, mais ils ne se sont jamais corrompus au milieu de tous ces loups. Et tout en sachant que tu vis au milieu d'un monde de requins, toi qui es enfant de Dieu, est-il possible de vivre avec eux ? Oui. Le Seigneur ne t'appelle pas à vivre dans un monastère. Le Seigneur t'appelle même de vivre au milieu du monde, tout en sachant qui tu es. La sagesse du livre des Proverbes, c'est, je trouve, cette lucidité qu'il faut avoir face au monde. Comme dit l'expression, tu ne peux pas empêcher l'oiseau de voler au-dessus de ta tête, mais tu peux l'empêcher à ne pas construire son nid sur ta tête. Cela me fait rappeler la parole de Jésus dans l'évangile de Luc concernant l'intendant injuste, dans Luc chapitre 16, verset 9. Faites-vous des amis, écoutez bien ce que Jésus dit, faites-vous des amis avec le mammon de l'injustice. C'est pas normal cette phrase. Il sait que c'est de l'argent qui vient de l'injustice, mais au contraire, faites-vous des amis avec ça. Pour que, quand il fera défaut, il vous accueille dans les demeures éternelles. Ah, cette parole divise beaucoup d'exégètes. Car rien que les versions des différentes Bibles donnent déjà leur propre orientation. Comme il y a ceux qui disent, non, c'est la parabole du serviteur infidèle. Déjà, le titre nous oriente à lire, comment lire ce texte. Et là, juste entre parenthèses, faites attention quand vous lisez vos Bibles, ne vous laissez pas influencer par les sous-titres. Moi, personnellement, je ne regarde pas ça. Parce qu'on vous oriente déjà. Il y a d'autres versions qui utilisent un autre titre. Tandis que, par exemple, dans une autre version de Bible, il dit « l'intendant habile ». C'est tout à fait bizarre. Dans une version de Bible, « le serviteur infidèle ». Là, c'est un intendant habile. Et là, chers amis, L'éthique de Jésus est complètement à l'opposé de notre morale chrétienne piétiste. Normalement, dans ce texte de l'Évangile, l'intendant, il a mal agi. C'est vrai. Or, ici, au verset 9, il a été félicité par Jésus pour son habileté. Car avec cet argent qui n'est pas au beau compte, bien sûr, qui n'est pas juste ni correct, il a su agir avec intelligence, avec habileté, pour avoir à nouveau la sympathie de son maître. Vous voyez ? Pour avoir la sympathie, pour être à nouveau en bonne relation avec son maître. Donc l'éthique de Jésus ici n'est pas une éthique de légaliste. C'est-à-dire, il faut que les comptes soient justes et tout, mais l'argent est là pour servir l'homme. Ce n'est pas lui qui doit régir la vie d'un homme. Notre habitude à nous, c'est que les bons comptes font de bons amis. Mais ici, le bon usage de l'argent qui devrait faire des amis. À ce titre, un monsieur qui s'appelle Jean-Noël Besançon, il a écrit un livre qui dit « Dieu ne sait pas compter ». Et voilà son argumentation. Comme ici, même dans ce texte, ou comme dans le cas de la parabole, il dit le cas de la parabole des ouvriers qui recevaient la même somme d'argent. Malgré les énormes différences d'horaire, il ne sait pas compter, non ? Celui-là, il a travaillé depuis le matin, l'autre à la dernière heure, et reçoivent la même paie. Dieu ne sait pas compter. Ou, un autre texte, Dieu qui remet les dettes à ceux qui ne le méritent pas. Ou, disait-il, un Dieu qui fait lever le soleil sur les bons ou les mauvais. C'est pas comme ça qu'il faut faire les choses. Et je vais même aller plus loin en prenant l'avis d'un prêtre dominicain qui allait même jusqu'à dire « Il faut profaner l'argent et ne pas le rendre sacré. » Profaner l'argent. C'est en se comportant aussi, Dieu profane l'argent. Il ne suit pas la logique du monde. Tu as fait ça, donc tu dois recevoir telle paie. C'est une façon de profaner l'argent. Ne pas suivre la règle du jeu que l'argent impose dans la vie de l'homme. Et c'est ça qui crée le mal dans le monde. Bref, pour nous dire qu'il faut avoir les pieds sur terre, les chrétiens ne vivent pas dans une bulle. Nous avons les pieds sur terre. Le système qui fait fonctionner le monde, il faut le dire, c'est l'argent, que tu le veuilles ou non. Et d'ailleurs, l'usage du terme « mammon » utilisé par Jésus veut dire un gain mal acquis. C'est un gain mal acquis. Et le Christ est conscient que c'est ça qui fait vivre la société. Et que si cet argent ou ce mammon, ce gain mal acquis, nous savons très bien qu'elle pourrait venir de nulle part. J'avais fait un enseignement là-dessus pour dire « Comment saurais-je les offrandes que nous apportons le dimanche viennent d'un gain normal ?» On ne sait pas. Même si la trésorière va prier pour remercier Dieu. Mais l'usage, comment vous allez utiliser par la suite ? C'est là qu'entre en jeu la parole de Dieu. Alors le sage ici nous rend conscient que c'est à nous de savoir bien manier, bien manipuler ce mammon pour qu'elle ne nous engloutisse pas. La richesse du monde, chers amis, est entre les mains de Dieu, bien sûr. Mais aujourd'hui, le mal l'a pris en force. C'est pour cela qu'on l'appelle même mammon. Mais le sage est appelé à profaner cet argent ou à exorciser la puissance maléfique de l'argent. Et c'est pour cette raison que le livre du Proverbe nous exhorte, par exemple, de ne pas vendre ta vérité, c'est ce qu'il dit ici. Ne vends pas la vérité et de toujours avoir la tête froide face à l'argent. Seul celui et celle qui a su profaner l'argent, celui ou celle qui a su exorciser l'argent, ne seront pas intimidés face à l'argent quand ils auront l'occasion de côtoyer les grands de ce monde. Combien de frères et sœurs en Christ quand tout à coup ils sont devenus riches, leurs têtes ont tourné. Rappelle-toi de Daniel et ses trois amis. Jusqu'au bout, ils ont résisté. Et donc le sage, selon le livre des Proverbes, est celui qui n'a pas tronqué ses valeurs qu'il avait reçues de son éducation spirituelle, qu'il a reçue de son père ici par exemple. Le jour où il sera face à une surabondance de richesses ou de succès, ça peut arriver dans une vie. Alors l'image donnée dans notre texte, il a beau côtoyer le gratin de la société, partager le quotidien de la crainte, des craintes de la société, boire les meilleurs vins du monde, comme dit les proverbes ici, inviter à des somptueux repas de ce monde, mais il restera fidèle à lui-même et à ses principes et ses valeurs jusqu'au bout. L'auteur du livre des Proverbes attire l'attention de son lecteur que l'acquisition de cette mentalité-là ne se fait pas en une journée. C'est un travail qui se fait depuis notre jeune âge. Il le dit ici. Oh, le père qui sera content à la fin de son parcours que son fils ou sa fille a su retenir toutes ses valeurs qu'il a transmises. Et ce qui fait encore plus mal dans la vie d'une personne, c'est de jeter à la poubelle tout ce qu'il a acquis tout au long de sa vie, rien que pour l'amour de l'argent en 5 minutes. Vous imaginez, tu as éduqué ton enfant avec toutes ses valeurs, et en une seconde, il met ça à la poubelle. C'est ça qui fait très mal. Et la parole que Jésus avait faite à Judas Iscariote, rappelez-vous, était assez lourde, que Judas n'a pas pu supporter cette vérité. Judas a foutu en l'air les 3 belles années qu'il a passées avec son maître, juste pour une question d'une soirée avec maman, qu'il avait reçu des pharisiens et des chefs religieux. Même chose aussi, rappelle-toi, cette question, l'histoire d'Ésaü et de Jacob. Ésaü, il a vendu son droit d'aîné à son frère pour une assiette d'haricots. Vous imaginez? C'est lui qui reçoit le titre d'héritage. Mais il a eu tellement faim qu'il dit, c'est rien du tout ça. En une seconde, il a perdu tout ce que son père lui a donné pendant toute sa vie. Et voilà, le monde est prêt à vendre son âme au diable, comme on dit, pour le prix d'un succès ou d'une quelconque réussite qui ne repose que sur du papier, l'argent. Et d'ailleurs, si vous remarquez, de plus en plus, l'argent, le papier va disparaître. Donc c'est de l'avidité. Dans notre tête, oh, j'ai tel euro sur ma compte, mais tu ne vois pas cet argent, il n'y a rien. C'est là. Et ce qui est émouvant dans ce texte du livre des Proverbes, l'auteur fait appel, ou plutôt fait un rappel des fondamentaux que nous avions acquis lorsque nous étions encore enfants. Les valeurs que nos parents nous ont inculquées. Et là, nous pouvons voir le sage. Ce n'est pas celui qui a gravé les échelons de la société, ni celui qui est arrivé au sommet du monde, celui-là qui est le plus sage. Non. Mais celui qui a su garder au plus profond de lui-même comme un trésor caché, tout ce que ses parents lui ont transmis. Et je mets entre parenthèses au sens large les parents, que ce soit les parents biologiques, les parents spirituels, les parents qui t'ont éduqué à l'école, les parents autour de toi, tes connaissances, tous ces gens qui ont transmis ces valeurs, ce sont tous des parents et que Dieu nous a dit de les respecter dans les 10 commandements. Alors, voici ce que dit le proverbe au chapitre 22, verset 6, et je m'arrêterai sur ce texte, « Initie le jeune homme ou la jeune fille à la voie qu'il doit suivre, même quand il sera vieux, il ne s'en écartera pas. » Amen.